Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous. Des débordements après la victoire du Maroc en Coupe du Monde à Fréjus mardi soir. En conséquence, l'agglomération de communes suspend des subventions, 69 000 euros destinés à donner des cours de français ou encore aider à la construction d'une micro-crèche. Êtes-vous d'accord avec ces sanctions radicales? Appelez-nous au 3921, vous pourrez en parler avec le maire Rassemblement National de Fréjus, David Racheline. Il est notre invité dès 19h20 après le journal. Bonsoir Hélène Zélani.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Drôle d'échange entre les États-Unis et la Russie. Moscou relâche la basketteuse Britney Griner contre le trafiquant d'armes Victor Bout. Portrait à suivre du sulfure russe. Emmanuel Macron annonce la gratuité du préservatif en pharmacie pour les 18-25 ans. Bonne nouvelle, nous diront des étudiants. Dans ce journal, l'entrée de la Croatie dans l'espace Schengen, mais aussi les discussions sur les retraites à Matignon.
Et nous en parlerons avec un représentant du patronat, le président de la CPME, François Asselin, sera avec nous vers 19h40. Vous nous appelez au 3921.
Et puis dans ce journal, Céline Dion qui annule sa venue aux Vieilles Charrues et aussi la chanson de Gilbert Montagnier pour les Bleus.
Ah, ça promet la tendance météo. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Raphaël et bonsoir à tous. Beaucoup de nuages sur le pays demain et puis une perturbation en provenance d'Espagne qui sera à l'origine d'un temps nuageux, pluvieux, neigeux, voire orageux à l'est et au sud. On fait le point à la fin du journal.
À tout à l'heure Marlène. Une célèbre basketteuse contre un marchand d'armes non moins célèbre dans son pays.
C'est en effet l'échange qui s'est déroulé aujourd'hui entre les États-Unis et la Russie sur l'aéroport d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. La star du basket américain Britney Griner a donc retrouvé la liberté après 9 mois de prison. En échange du russe Victor Bout, l'un des plus gros trafiquants d'armes au monde. Alexis Guilleux, vous êtes à New York pour Europe 1. Britney Griner est attendue dans les 24 prochaines heures aux États-Unis.
Oui, c'est un immense soulagement pour ses proches et pour toute la communauté du basket américain mobilisée depuis février pour obtenir la libération de la double championne olympique. Malgré son traumatisme, Britney Griner a le moral, assure Joe Biden.
Ces derniers mois ont été un enfer pour Britney. Elle est en sécurité, dans un avion, et elle revient à la maison. C'est une journée pour laquelle nous travaillons depuis longtemps. Nous n'avons jamais cessé de faire pression pour sa libération dans des négociations intenses et laborieuses. Je suis fier qu'aujourd'hui nous ayons permis à une famille de se retrouver.
Des négociations difficiles, mais Washington et Moscou n'ont jamais cessé de se parler dans ce dossier alors que le conflit en Ukraine est en cours. La Russie obtient en échange la libération de Victor Bout. Ce trafiquant d'armes purgeait une peine de 25 ans de prison aux États-Unis. Washington a essayé dans le même temps de faire libérer Paul Whelan. Les États-Unis ne l'oublient pas, mais la Russie traite ce dossier totalement différemment, a expliqué Joe Biden. Un officiel américain a tout de même pu discuter longuement aujourd'hui avec cet ancien marine détenu en Russie pour espionnage.
Merci Alexis Guilleux. Victor Bout, ce nom ne vous parle peut-être pas. Pourtant, c'est lui qui a servi de modèle à Nicolas Cage dans le film Lord of War, sorti en 2005. La Russie essayait d'obtenir sa libération depuis plus de 10 ans. Vous nous dressez son portrait, William Molinier.
Eh bien, les surnoms pour le qualifier ne manquent pas. Le marchand de la mort, le seigneur de guerre, Victor Bout, est né en 1967 au Tadjikistan. Pendant sa formation, il passe entre les mains du puissant Grou, le renseignement militaire soviétique. Très doué en langue, il devient interprète dans l'aviation russe. Sa fortune se construit après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. L'ex-URSS a alors des stocks d'armes bon marché à revendre et Victor Bout sait où les trouver, notamment en Bulgarie, en Ukraine ou encore en Moldavie. Il les aurait alors achetés à des prix bradés pour les revendre à des groupes armés africains au Libéria, en Angola, en Sierra Leone et en République démocratique du Congo. Il est arrêté en 2008 en Thaïlande par les policiers de l'agence américaine Antistup qui se faisaient passer pour des acheteurs au profit des forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC. Il est extradé 2 ans plus tard et condamné en 2012 à 25 ans de prison. Victor Bout est considéré au Kremlin comme un H, un terme russe pour désigner un des nôtres, un de ceux qui ont rendu service au pays et donc qu'on ne lâche pas, qu'on n'abandonne pas. Engagement que Moscou tient donc aujourd'hui avec le retour de Victor Bout parmi les siens.
Et d'ailleurs, la mère de Victor Bout remercie ce soir Vladimir Poutine pour la libération de son fils.
Emmanuel Macron était dans la Vienne aujourd'hui. Une annonce, la gratuité du préservatif.
Oui, visite présidentielle à Fontaine-le-Comte, près de Poitiers, lors d'une session du Conseil national de la refondation consacrée à la santé des jeunes. Dès le 1er janvier prochain, les préservatifs seront donc gratuits en pharmacie pour les 18-25 ans. Écoutez ce qu'en disent les premiers concernés.
C'est une très bonne nouvelle. Je pense que le prix est parfois excessif pour quelque chose qui est utilisable qu'une seule fois malgré tout et qui est d'ordre de santé publique. Donc oui, pour moi, c'est une très bonne chose.
Ça pourra aider beaucoup d'étudiants dans notre cas qui ne peuvent pas vraiment se permettre d'acheter des préservatifs même de qualité parce que les prix sont très élevés.
Ouais, c'est une bonne chose que ce soit gratuit maintenant ouais. Parce que 10 euros au niveau du repas, ça impacte. Avec ça, tu as peut-être je sais pas, 5 paquets de pâtes.
C'est quand même quelque chose qui sert dans la vie du quotidien. J'ai déjà eu beaucoup d'expériences d'amis qui ont donc dû prendre plusieurs fois la pilule du lendemain ou une amie qui était tombée enceinte. Et en fait, le fait que ça soit gratuit, ça peut aider énormément.
C'est que du plus. Sachant que pour les filles, on a aussi les protections hygiéniques dans notre budget. Donc s'il y a ça qui peut être gratuit, c'est encore mieux.
Des témoignages recueillis par Guillaume Dominguez. Notez que lors de cette visite dans la Vienne, Emmanuel Macron avait remis le masque. « J'ai mis le masque », a-t-il expliqué, non pas parce que je suis malade, mais parce que je suis les préconisations de mon ministre de la Santé.
Et nous serons tout à l'heure vers 19h50 avec Benjamin Davido pour parler de la 9e vague de Covid. Et de 8, pour la 8e fois, Elisabeth Borne a dégainé le 49-3 à l'Assemblée.
Oui, c'était pour faire adopter la partie recette du projet de budget 2023. Comme les autres fois, LFI a annoncé le dépôt d'une motion de censure. Un peu plus tôt dans la journée, la Première ministre avait reçu les syndicats à Matignon pour parler retraite. C'est l'heure des dernières consultations avant la grande présentation la semaine prochaine, Jacques Serret, et aucun compromis à l'horizon.
Oui, à la sortie de Matignon, tous les leaders syndicaux se disent opposés à la réforme, à commencer par Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT.
On a réaffirmé notre opposition, évidemment, au report de l'âge légal et on a insisté sur le fait que la Première ministre et le Président de la République mesurent bien le fait que l'ensemble des organisations syndicales soient contre cette réforme et déjà averti que si elle ne changeait pas sa mesure de l'âge légal ou la durée de cotisation, il pouvait se passer des choses importantes dès le mois de janvier.
Des syndicalistes qui ont pu lire ici ou là le récit du dîner d'Emmanuel Macron hier soir avec des cadres de sa majorité, le chef de l'État y a confirmé son souhait de reporter l'âge légal de départ à 65 ans, de quoi agacer Laurent Berger de la CFDT.
On a demandé éclaircissement et évidemment la Première ministre n'était pas en mesure de nous donner pourquoi on nous invitait ce matin et on nous disait que les choses avaient été arbitrées hier. La crainte que j'ai, je vous le dis très franchement, c'est en fait une réforme qui serait une mesure d'âge et qui ne tiendrait pas compte de ces 2 mois de concertation qu'on a investi, nous, avec conviction et avec des propositions.
Mais Emmanuel Macron a bien décidé d'appliquer sa réforme et il peut compter ce soir sur le soutien de François Bayrou, le haut commissaire au plan qui se montrait jusqu'ici très réticent, souligne ce soir dans une note publiée par Le Figaro, le besoin de réformes pour rééquilibrer le système.
Jacques Serret.
L'espace Schengen s'élargira en janvier prochain avec l'arrivée de la Croatie.
Oui, les ministres de l'Intérieur européens réunis à Bruxelles ont voté l'entrée du pays à l'unanimité. En revanche, pour les adhésions de la Roumanie et de la Bulgarie, c'est non. Laura Van Lerberg, vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Au 1er janvier, il n'y aura donc plus de frontières entre la Croatie et les 26 autres membres de l'espace Schengen.
Oui, plus de files d'attente de véhicules à sa frontière, car plus de contrôle, plus de passeport pour les Croates. Ils pourront circuler librement dans cette vaste zone. En contrepartie, le pays doit assumer des inspections rigoureuses aux frontières extérieures de l'espace, s'engager à une coopération policière pour lutter contre la criminalité organisée ou le terrorisme. La Bulgarie et la Roumanie le demandaient depuis 10 ans, mais eux devront encore patienter. Une déception pour ces deux pays membres de l'Union européenne dès 2007, bien avant la Croatie. Depuis 2011, ils remplissent les critères techniques, ils ont réalisé des progrès en matière de justice et de lutte anticorruption, mais pas assez pour convaincre l'Autriche et les Pays-Bas. Vienne redoute que la levée des contrôles aux frontières n'accroisse l'arrivée des migrants sur son territoire. Une fin de non-recevoir qui risque de renforcer l'euroscepticisme en Bulgarie et en Roumanie.
Laura Van Lerberg à Bruxelles pour Europe 1 et décidément les 3 900 000 habitants de la Croatie connaîtront beaucoup de changements au 1er janvier puisqu'ils vont entrer aussi dans la zone euro. Ils diront donc adieu à leur monnaie, le kuna.
Et si je me rappelle bien, il fallait 7 kuna 50 pour faire 1 euro. Restez avec nous sur Europe 1. Dans quelques instants, nous partons à Saint-Étienne où le maire Gaël Perdriau annonce se mettre en retrait de la présidence de la métropole. Mais pas de démission encore. A tout de suite.
Europe Soir, 19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.
19h11 sur Europe 1, la suite du journal d'Hélène Zélani, direction Saint-Étienne, où le maire très décrié, Gaël Perdriot, lâche du lest.
Oui, Gaël Perdriot, qui depuis 3 mois est au cœur d'accusations de chantage à la sextape sur son premier adjoint, annonce son retrait total, non pas de la mairie, mais de la présidence de la métropole de Saint-Étienne. Vous êtes sur place, Jean-Luc Boujon, qu'est-ce que ça signifie concrètement ?
Eh bien, cela signifie que Gaël Perdriot ne prendra plus aucune décision à la métropole. Sa fonction est comme vidée de sa substance. Il ne présidera plus aucune réunion ni groupe de travail. Il délègue tout à ses vice-présidents, comme il l'a annoncé tout à l'heure au début de la séance, avant de brutalement quitter les lieux.
Je comprends parfaitement que vous puissiez douter. Je comprends parfaitement que vous éprouviez un malaise. C'est la raison pour laquelle je prends la décision de me mettre en retrait total de la métropole.
Sauf qu'il reste quand même en poste. Il reste président. Ce n'est donc pas une démission. Et cela ne passe pas auprès des conseillers de la métropole qui, ulcérés par les révélations dans la presse depuis septembre, ont organisé un vote pour demander une démission complète et totale. Vote approuvé à 60% par les conseillers, y compris par certains de ses soutiens comme Marc Chavanne, maire de Saint-Jean-Bonnefonds.
J'ai une rupture de confiance. On a voté ensemble un pacte métropolitain. Quand je signe un pacte avec quelqu'un, c'est que je suis d'accord avec lui, on se serre la main, on se serre les coudes, on avance ensemble dans l'intérêt général. Aujourd'hui, le pacte est rompu. La confiance est donc rompue et moi, je ne peux pas continuer à travailler avec quelqu'un et qui j'ai pas confiance.
Mais ce vote n'est pas contraignant, il est seulement symbolique. Les élus espèrent tout de même qu'il mettra suffisamment la pression sur Gaël Perdriot, plus isolé que jamais, pour qu'il s'en aille de lui-même dans les prochains jours.
Jean-Luc Boujon à Saint-Étienne pour Europe 1.
Stupeur pour tous les fans de Céline Dion, surtout ceux qui comptaient la voir en concert l'été prochain en France.
Oui, la chanteuse, visage défait, élocution lente et pleine d'émotion, a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour annoncer qu'elle reportait le début de sa tournée européenne.
Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais Stiff Person Syndrome, qui atteint environ une personne sur 1 million. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre. J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher. Et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais. Ça m'attriste énormément de devoir vous dire aujourd'hui que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février.
L'émotion de Céline Dion qui souffre d'un syndrome de la personne raide en français, maladie neurologique très rare qui entraîne une rigidité des muscles. Elle annule notamment sa venue au festival des Vieilles Charrues où elle devait chanter le 13 juillet après 2 premières annulations. Déception et tristesse du directeur du festival, Jérôme Tréorel, qui va devoir rembourser 55 000 billets.
Forcément, c'est la déception et on lui souhaite un prompt rétablissement. C'est une information qu'on envisageait depuis plusieurs semaines déjà. On s'y préparait tellement qu'on avait même déjà mis une option sur une date le 11 juillet en 2024. Malheureusement, c'est une annulation pure et simple et pas un report comme on a connu les dernières fois. C'est forcément rageant pour nous, organisateurs. C'est rageant également pour les festivaliers qui, pour la grande majorité, depuis 2019, ont conservé leurs billets pour le concert de Céline Dion.
Le directeur du Festival des Vieilles Charrues, joint par Marie Jiquel. En revanche, tous les concerts de Céline Dion du 26 août au 4 octobre 2023, dont les 6 parisiens en septembre, sont maintenus. Et puis encore un peu de musique Europe 1, vous l'a révélé en exclusivité, la chanson de Gilbert Montagnier pour soutenir les Bleus au Mondial. Il reprend son classique « Sous les sunlights des tropiques » en changeant les paroles à la gloire de Kylian Mbappé.
Hey Kylian Mbappé, équipe de France, t'es magique, tu nous fais tellement rêver. Depuis longtemps, Mbappé.
Ah, tout le monde danse là, je crois,
c'est
y compris vous, hein, il faut l'avouer. À 20h dans Europe 1 Sport, un rendez-vous important. Vous entendrez en direct Gilbert Montagnier et le compositeur de cette chanson, Didier Barbelivien. Allez, on passe au marché financier. Didier Hamot de boursier.com, pas de quoi chanter, hein, encore une séance de baisse à Paris.
C'est beaucoup moins festif, effectivement. Cinquième séance de baisse consécutive, moins 0,2%, une petite baisse. Hein. 6647 points sur le CAC 40, le marché continue de digérer son gros rebond de près de 20% en l'espace de deux mois. À noter le pétrole aussi qui continue de reculer sur des craintes de récession internationale. On a un baril de Brent à $77 ce soir, au plus bas de l'année. Ailleurs, c'est à peu près pareil. Bruxelles perd 0,4%. La bourse de Milan, moins 0,1%. Le CAC 40 a perdu 0,2%. 6647 points.
Merci Didier Hamot.
Fortinéo, j'aime ma banque.
Je vais y arriver. Merci à vous, chère Hélène Delany. On vous retrouve tout à l'heure à 20h pour un nouveau point sur l'actualité. La météo, Marlène Duret. Attention aux pluies verglaçantes. Hein.
Oui, au contact de l'air froid et de la perturbation qui remonte en ce moment depuis l'Espagne, eh ben ça va concerner pas mal de départements à partir de cette nuit et demain matin. Une zone allant du Puy-de-Dôme et de l'Allier à la Haute-Savoie, en passant par le Rhône, la Loire, l'Ain, et puis aussi de l'est de la Bourgogne à la Haute-Saône, le territoire de Belfort et le Haut-Rhin.
Et vous nous annoncez un peu de neige aussi.
Et oui, va neiger toute la journée dans le territoire de Belfort. Donc après les pluies verglaçantes, la neige de ce côté-là. Des 800 mètres aussi sur le Jura, mais seulement le matin. Dans les Alpes du Nord, des 1200 mètres. Alors pas de neige dans les Hautes Alpes, mais il y a quand même un risque d'avalanche. Notez-le, de 4 sur 5, attention. Puis en poursuivant un peu plus vers le sud, entre la Côte d'Azur et la Corse, pas de neige, mais de bonnes pluies orageuses. Bon, je le place ici. Et puis pour terminer avec la neige, quelques flocons peuvent venir se mêler aux averses de pluie. Près de la Manche, entre le Cotentin et le Boulonnais.
Alors ça bouge, côté température, quelques fourchettes pour demain?
Oui, ça bouge peu quand même, mais bon, demain après-midi, 1 à 3 degrés au meilleur de la journée sur le quart nord-est, entre 3 et 6 pour le nord-ouest, sur la moitié sud prévoyez entre 6 et 12, alors 12 plutôt du côté de Toulouse, 7 à Montélimar, on prévoit encore un peu plus vers les bords de la Méditerranée, 14-15 en moyenne, 17 à Perpignan quand même, et puis ça peut monter, écoutez bien, jusqu'à 19 ou 20 degrés sur les rivages corses.
C'est bien noté. Merci Marlène Duret. Vous revenez nous voir tout à l'heure à 23h pour un nouveau point météo sur Europe 1. Bien sûr, restez avec nous dans quelques instants. Nous recevons le maire Rassemblement National de Fréjus, David Racheline. L'un des quartiers de sa ville voit ses subventions suspendues. Il y en a pour 69 000 euros. C'est l'agglomération de communes, la présidence LR de l'agglomération de communes, pour être précis, qui a décidé de suspendre les subventions en raison de débordements qui ont suivi la soirée de fête après la victoire du Maroc mardi soir en Coupe du Monde de football. Là, tout de suite sur Europe 1.
19h, 20h,
Raphaël Delvolvé.
Europe Soir,
Raphaël Delvolvé.
La victoire du Maroc en Coupe du Monde mardi était magnifique. Beaucoup s'accordent à le dire. En revanche, sur la façon de la célébrer, là, les avis sont beaucoup plus partagés. Les nombreux rassemblements de supporters observés dans plusieurs villes de France ont parfois dégénéré. Des affrontements avec les forces de l'ordre ont notamment été observés, comme dans le quartier de la Gabelle à Fréjus, dans le Var, où l'agglomération de communes dirigée par le LR Frédéric Masquelier a décidé de sanctionner en suspendant des subventions d'un montant de 69 000 euros au quartier de la Gabelle. Nous sommes avec David Racheline, maire Rassemblement National de Fréjus. Bonsoir, monsieur le maire.
Bonsoir.
Vous êtes également premier vice-président de l'agglomération de communes. Vous soutenez la décision de Frédéric Masquelier?
Oui, bien sûr, c'est une décision que nous avons prise ensemble. La ville de Fréjus va d'ailleurs faire de même. Il est temps maintenant de siffler la fin de la récréation. L'État ne peut pas nous laisser dans cette manière-là, dans le dénuement le plus total, face à des bandes de voyous, puisque ce n'est pas la première fois qu'il y a des incidents dans ce quartier, sans qu'ils ne soient jamais ni interpellés, ni sanctionnés par la justice. Il y a un moment où il faut que l'État prenne ses responsabilités, qu'il réagisse. Nous demandons depuis des années des renforts de police qui ne viennent jamais au ministre de l'Intérieur. La députée de la circonscription a demandé le classement du quartier en quartier de reconquête républicaine et on attend toujours une réponse de la part du ministre de l'Intérieur qui manifestement est complètement dépassé par les événements.
Alors, que s'est-il passé exactement mardi soir? Je crois que vous avez évoqué sur les réseaux sociaux des jets de pierres, des fumigènes, des affrontements avec les forces de l'ordre. C'est bien ça, David Racheline?
Oui, c'est ça. Jets de pierres, fumigènes, attaques des policiers au mortier. Ce qu'on a l'habitude de voir d'ailleurs dans un certain nombre de quartiers en France, avec un État qui ne sait plus maintenir l'ordre, qui laisse prospérer les troubles à l'ordre public de cette manière. Et franchement, les élus locaux n'en peuvent plus, les habitants n'en peuvent plus. Et nous lançons donc en quelque sorte un signal avec la suspension de ces aides. Nous disons, vous ne pouvez pas, l'État ne peut pas nous laisser comme cela, seul, face à un certain nombre de gens qui, manifestement, ne respectent rien.
Alors pourquoi cette décision aussi radicale à ce moment-là ? Parce que j'ai cru comprendre que le quartier de la Gabelle était déjà sensible, hein, habitué à ce type de violence urbaine, appelons-les comme ça, David Racheline.
Oui, parce que c'est le ras-le-bol, si vous voulez. Ça fait des années que ça dure.
Mais c'était particulièrement violent mardi soir ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'était comme d'habitude, mais vous savez, on passe à chaque fois à côté de drames, que ce soit pour les policiers qui sont victimes de violences, et même pour les habitants qui passent en voiture, qui reçoivent des projectiles, des pierres et autres. Tout cela pourrait très très mal finir. Et donc nous disons aujourd'hui, il faut que l'État fasse face à ses responsabilités, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il accorde des renforts aux collectivités qui en ont besoin, et surtout que la justice soit implacable avec ces voyous qui aujourd'hui sont franchement dans l'impunité la plus totale.
Alors les élus d'opposition à Fréjus dénoncent une punition, hein, la suspension de ces subventions de 69 000 euros, une punition collective et injuste. Qu'est-ce que vous leur répondez, David Racheline ?
Je ne me surprends pas de voir que l'opposition est toujours du côté des voyous plutôt que des honnêtes gens. Moi, je suis toujours surpris par leur réaction.
Alors, on a perdu la liaison avec le maire de Fréjus, David Racheline. On va partir en publicité, faire une petite pause et on retrouve le maire Rassemblement National de Fréjus, David Racheline, qui est notre invité ce soir sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes nombreux à nous appeler au 39-21 à réagir à ce de quoi nous parlons avec le maire de Fréjus, David Racheline, maire Rassemblement National. La suspension de ses subventions au quartier de la Gabelle, émaillée par des affrontements urbains dans le sillage de la victoire du Maroc en Coupe du Monde. C'était mardi soir. David Racheline, on a été coupé avant la pause. Je vous repose la question. Les élus d'opposition à Fréjus dénoncent une punition collective et injuste avec la suspension de ces subventions de 69 000 euros qui devaient financer notamment une micro-crèche ou encore des cours de français. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Je leur dis qu'ils devraient se solidariser de nos équipes et des collectivités qui alertent les services de l'État, car encore une fois, la situation n'est plus tenable. Il ne s'agit pas de surcroît d'une suspension, en tout cas d'un arrêt définitif, il s'agit d'un moratoire. Nous disons aujourd'hui, nous arrêtons toutes les subventions, tous les investissements dans ce quartier, dans lequel, je le rappelle quand même, il a été fait 30 millions d'investissements dans les dernières années, de rénovation urbaine et autres. Avec un préalable en quelque sorte, le préalable au retour à l'investissement, c'est la sécurité, c'est le retour à l'ordre public. Aujourd'hui, je vous le disais, je le répète, la situation est hors de contrôle, l'État n'est pas à la hauteur de ses responsabilités et on saisit cette occasion pour faire réagir aussi bien les habitants d'ailleurs que les services de l'État et le ministre de l'Intérieur.
Mais ce n'est pas les voyous que vous voulez sanctionner, c'est l'État que vous voulez interpeller, si j'ai bien compris, David Racheline.
Non, mais c'est les deux, évidemment. L'objectif, c'est une sanction claire, une marque d'autorité en disant qu'il faut maintenant mettre un terme à ces actes. Et c'est aussi saisir les services de l'État en leur disant vous ne pouvez pas nous demander d'investir toujours davantage, de faire des politiques sociales fortes en nous abandonnant totalement sur le plan de la sécurité. Il faut les deux. Il faut bien sûr des politiques sociales, pardon, des services publics, oui, mais il faut aussi et surtout le retour à l'ordre républicain. Et très honnêtement, on en est loin aujourd'hui, dans de nombreux quartiers d'ailleurs, pas seulement à Fréjus.
Alors, vous attendez deux effets, hein, de cette mesure, la suspension des subventions au quartier de la Gabelle de Fréjus, David Racheline. Vous attendez une réaction de l'État. Et qu'est-ce que vous attendez de la part des habitants du quartier ?
Moi, je dis aux parents, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités aussi. Que font ces jeunes gens dehors avec des mortiers à tirer des pierres sur les passants, à des heures indues d'ailleurs, la plupart du temps. Il faut aussi appeler à la responsabilité des parents, leur dire que maintenant, il faut citer la fin de la récréation, qu'il faut revoir clairement l'éducation de ces jeunes gens. On est prêt d'ailleurs à les y aider. Faut-il encore qu'ils soient dans une bonne démarche. Et franchement, aujourd'hui, là encore, on en est loin. On voit que ces jeunes sont en quelque sorte livrés à eux-mêmes. Et encore une fois, nous saisissons cette opportunité pour leur dire « réagissez ». aussi bien aux parents, aussi bien aux habitants du quartier, qui doivent prendre la parole aussi et dire qu'ils en ont assez et dire qu'ils en ont ras-le-bol de cette situation, qu'aux services de l'État, je le disais, qui doivent eux aussi réagir. Il faut que le préfet du Var vienne sur place et il faut que le ministre de l'Intérieur, enfin, nous accorde les renforts auxquels nous avons droit.
Alors, en tout cas, la décision de l'agglomération de communes de Fréjus est saluée par de nombreux Français qui ne vivent pas dans le Var. Nous sommes en ligne avec Jacqueline, qui nous appelle de Moselle. Bonsoir, Jacqueline.
Bonsoir.
Alors, dites-nous, que pensez-vous donc de cette décision très radicale prise par l'agglomération de communes de Fréjus ?
Eh bien, je l'approuve, même si je ne fais pas partie, je ne suis pas du bord de Monsieur Racheline, mais ça n'a pas d'importance. Moi, je pense que ça suffit. J'ai pas peur de parler parce que moi-même, je suis fille d'émigrés italiens. Donc, je sais ce que c'est que l'intégration. Et l'intégration, c'est pas le pays qui l'a fait, c'est soi-même qu'il faut, il faut la vouloir. Et la différence entre les immigrations précédentes, dont je fais partie, c'est que nos parents nous ont appris à aimer la France. Aujourd'hui, les parents, ils veulent élever leurs enfants comme au pays, comme ils disent. Et ces jeunes-là, ils balancent entre deux cultures, donc vulgairement, ils ont le cul entre deux chaises. J'ai entendu un jeune dire que le Maroc était son pays. Et le pays qu'il nourrit, c'est quoi alors? On peut fêter, mais si on casse, on paye. Nous, nos parents, ils ont gagné la nationalité française. À l'époque, il n'y avait pas les mêmes avantages. Il y avait une carte de résident temporaire, il y avait une privilégiée, et au bout de 10 ans, on était naturalisé. Et à l'école, on a été encadré par de très bons enseignants qui étaient respectés. Et notre fierté, c'était d'être dans les premiers. Et voilà, donc on était une quinzaine de cousins, cousines, il n'y a aucun qui a mal tourné. Le service militaire a aussi permis l'intégration, ce qui fait défaut maintenant. Voilà. Alors moi, je voudrais dire, comme Romain Gary, aucun sang français ne coule dans mes veines, mais la France est ma patrie. Voilà.
Merci beaucoup, Jacqueline. Restez avec nous. David Racheline va rebondir sur vos propos. Vous entendez peut-être la même chose de la part d'habitants de Fréjus, d'ailleurs, monsieur le maire.
Oui, oui, complètement. On voit bien que l'État a failli dans bien des domaines, pas seulement dans le domaine de la sécurité, mais c'est vrai aussi dans le domaine de l'éducation, c'est vrai aussi dans le domaine de l'assimilation républicaine. On voit bien que, là encore, la situation est un petit peu hors de contrôle. On devrait pouvoir assister à des matchs de football de haut niveau, en l'occurrence la Coupe du Monde, de manière sereine, sans qu'il y ait de débordement. Chacun peut fêter la victoire de qui il veut, d'ailleurs, ça ne me pose aucune difficulté, mais dans le calme. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, tous les prétextes sont bons pour s'en prendre à la République.
Voilà, mardi soir, ce n'était pas du tout une ambiance de fête, des manifestations de joie. Hein.
Mais pas du tout, malheureusement, et c'est ça que je déplore. Tous les prétextes sont bons pour s'en prendre à la République et pour s'en prendre à ce qui représente, de près ou de loin, l'autorité, la France. Ça pose quand même un sacré problème, en effet, d'assimilation. Et je crois, là encore, qu'il faut tout revoir. Mais on le sait bien, ceux qui sont au pouvoir depuis maintenant de très nombreuses années ont tout échoué et même ont tout cassé, en réalité.
Voilà, et d'ailleurs, il n'y a pas eu des incidents qu'à Fréjus. Hein, il y en a eu à Lille, à Nice, à Amiens, à Lyon également. Lyon, dont Yannick est parti. Bonsoir, Yannick.
Bonsoir.
Alors, pourquoi avez-vous quitté Lyon il y a de ça plusieurs années maintenant ?
Ça fait 3 ans que j'ai quitté Lyon. J'ai vécu pendant 45 ans à Lyon. Et j'ai quitté Lyon justement à cause de, je vais dire le mot, hein, de cette racaille dans les rues. L'insécurité totale dans Lyon. Mmh. Voilà. Après, je peux vous répondre sous forme de question. Hein, c'est très simple. Qui agresse des petites vieilles pour leur arracher l'or par derrière en les tapant sur la tête ? Qui brûle des voitures quand ils sont contents ? Qui brûle des voitures lorsqu'ils ne sont pas contents ? C'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes. Vous savez, aujourd'hui, la population juive quitte la France, ils partent en Israël parce qu'ils se font agresser. Aujourd'hui, tous les actes antisémites qui sont commis en France ne sont plus faits par des Français comme avant, à l'époque des skinheads, il y a 40 ans. Aujourd'hui, les Juifs se font agresser que par cette même racaille.
Alors, faut couper les subventions, comme on l'a décidé récemment du côté de Fréjus.
Ah, mais bien sûr, je suis totalement pour. Bien sûr, bien sûr. Et l'opposition, vous parliez de l'opposition, mais l'opposition, elle peut pas. C'est leur électorat, ces gens-là. Ils vont pas s'en priver non plus de ces électeurs. Ils visent dessus, ils font que ça. Donc, ils ferment les yeux sur la réalité et puis ils veulent leur électorat. Moi, je suis parti de Lyon. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Saint-Priest, à Vénissieux, à Bron, d'où je viens. Moi, j'étais à Bron, dans une cité. J'ai grandi dans une cité où les tours faisaient toutes 15 mètres. Mmh. Et sur une école de 23 élèves, on était 4 Français. Et j'ai très, très bien tourné. Très, très bien tourné.
On Sauf parle que, beaucoup alors, aussi voilà. du quartier de la Guillotière à Lyon, hein, voilà. Hein.
Exactement, la Villeurbanne, Saint-Fons, voilà. C'est.
Et vous avez quitté Lyon pour la Vendée, c'est ça, Yannick hein.
J'ai quitté Lyon pour la Vendée, en effet.
Où oui, là, ça se passe comment bien.
Ah ben, rien à voir, vraiment rien à voir. Beaucoup plus calme, beaucoup plus calme.
Voilà, David Rachine, votre réaction peut-être à ces Français contraints de partir car la vie devient impossible dans leur quartier.
Ouais, vous savez, il y a une réalité qu'on décrit avec Marine Le Pen depuis très longtemps. C'est que la carte de France de l'immigration est un petit peu la carte de France de l'insécurité. Il ne faut pas se voiler la face. C'est une réalité. Dans mon territoire et dans ma commune, il y a un quartier qui pose problème. C'est ce quartier de la Gabelle, dans lequel, certes, une minorité pourrit la vie d'une majorité de personnes, mais c'est le quartier dans lequel on trouve effectivement beaucoup de gens d'origine étrangère, maghrébine, etc. C'est une réalité. Il ne faut pas le nier. Il faut donc, en mesure numéro un, arrêter évidemment l'immigration, faire en sorte de mettre en œuvre un rouleau compresseur républicain et enfin faire respecter la République et sanctionner, car que nous disent les forces de police sur place ? Une fois qu'ils ont interpellé une personne, une fois, 10 fois, 20 fois, et qu'elle est relâchée par la justice, que rien ne se passe, qu'il n'y a aucune sanction qui est appliquée, mais même les forces de police sont découragées à aller chercher ces personnes. Donc je pense clairement qu'il faut tout revoir, et je comprends tout à fait la personne qui vient de s'exprimer, évidemment.
Merci beaucoup David Rachline, maire Rassemblement National de Fréjus, où mardi soir il y a eu donc des incidents juste après la victoire du Maroc en Coupe du Monde. Je le disais, il y en a eu dans d'autres villes, Lille, Nice, Lyon, à Paris également, mais même à l'étranger, aux Pays-Bas notamment, on ne peut pas nier la dimension communautaire. On a notamment vu un drapeau israélien brûlé par certaines personnes donc qui se mêlaient aux supporters qui fêtaient la victoire du Maroc. Merci David Rachline d'avoir été avec nous sur Europe 1. On marque une pause.
Merci à vous.
Et dans quelques instants, nous changeons de sujet. Nous allons évoquer la réforme des retraites. Il y avait des consultations à Matignon entre la Première ministre et les partenaires sociaux aujourd'hui, mais également un dîner hier à l'Élysée où certaines décisions ont été prises. A tout de suite.
Europe Soir. Raphaël Delvolvé.
Le président a, semble-t-il, tranché sur l'âge de départ à la retraite qu'il souhaite instaurer dans sa future réforme. Elle sera présentée le 15 décembre. Mais hier, au cours d'un dîner avec la Première ministre et les cadres de la majorité à l'Élysée, le président penchait pour 65 ans. D'ailleurs, Jacques Serret nous le racontait dans le journal. Il voudrait un amendement à un budget rectificatif de la sécurité sociale, donc un probable 49-3 à venir pour faire adopter cette réforme des retraites, au risque de s'attirer les foudres des syndicats, même les plus réformistes, je pense à la CFDT, mais sans doute pas les foudres du patronat. En revanche, François Asselin, président de la CPME, est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Il faut aller vite sur cette réforme, il faut passer à l'âge légal de départ à 65 ans.
Il y a deux questions que vous venez de me poser. Faut-il aller vite ? Je ferai simplement la remarque que ça ne sera jamais le moment de faire cette réforme. Donc, il y a un moment ou un autre, il faut quand même poser un acte. C'est-à-dire que si on regarde objectivement l'évolution démographique de notre pays, nous avons un régime de retraite par répartition, c'est-à-dire que c'est le nombre d'actifs qui, par son travail, payent les retraites des retraités. Quand on regarde l'évolution démographique, eh bien, il va y avoir de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités. Donc, si plus on attend, plus ça sera douloureux. Donc oui, il faut aller vite. Je rappellerai simplement que ça fait près de 2 ans que nous travaillons en profondeur. Souvenez-vous tous les rendez-vous avec Jean-Paul Delevoye. Nous travaillons en profondeur sur ce sujet de réforme des retraites. Donc, oui, en tout cas, la CPME, nous sommes prêts. Et puis, concernant l'âge à laquelle nous devrions liquider notre retraite demain, nous, on préfère appeler un chat un chat. C'est-à-dire que de dire que pour tous les Français, l'âge légal de départ en retraite demain, c'est 65 ans, eh bien, au moins, c'est clair pour tout le monde, plutôt que d'essayer de faire des comptes d'apothicaire pour savoir si je vais pouvoir partir à 64 ans, peut-être avant, etc. À condition toutefois qu'il y ait des éléments de cette réforme qui soient vraiment respectés. Le président de la République a annoncé que le minimum contributif serait équivalent à 85% du SMIC. Ça, c'est très important, et à la CPME, nous y sommes attachés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire le minimum contributif, c'est le fruit de votre travail pendant toute votre vie professionnelle et à minima, vous ne pouvez avoir moins de 85% d'un SMIC en retraite. Ça fait à peu près 1200 euros.
La fameuse pension de retraite à 1100 euros minimum, voilà.
Oui, ça ferait même 1200 euros au moment de l'entrée en vigueur de cette réforme des retraites. Je rappellerai simplement qu'il n'y a pas si longtemps que ça, elle était en dessous de 1000 euros. Donc c'est important. Et puis, nous pensons bien évidemment aux métiers qui sont physiquement plus exposés que d'autres. Il est tout à fait normal eh bien, qu'ils partent en retraite avant un type comme moi qui aura fait toute sa carrière professionnelle dans un bureau ou dans une voiture.
Alors, 64 ou 65 ans, il y a un problème qui se pose également, c'est celui des seniors, des plus de 55 ans, dont beaucoup ont du mal à trouver du travail pour valider leur dernier trimestre avant de partir en retraite. Comment ça va se passer pour eux? Qu'est-ce que vous attendez de la part du gouvernement, François Asselin de la CPME?
Alors d'abord, il faut attendre beaucoup de la part des entreprises, parce que ce sujet de l'emploi des seniors, vous savez, c'est pas tellement un sujet PME. Parce que lorsqu'un senior part en retraite dans une PME, c'est une compétence importante, parfois indispensable, qui s'en va et qu'on a beaucoup de mal à remplacer. Bien évidemment, dans les grandes entreprises, lorsque on a les poches un peu plus profondes, eh bien, ça fait le jeu aussi bien des salariés que de l'employeur, que un peu avant la retraite, de faire un chèque pour bien qu'on liquide sa retraite avant l'âge légal de départ. Donc, il faut bien sûr travailler à l'employabilité des seniors, ça c'est très important. Et puis, il y a une sorte de système automatique, c'est-à-dire que lorsqu'on décale automatiquement l'âge légal de départ en retraite, eh bien, automatiquement, on augmente l'employabilité des seniors. En clair, lorsque vous voulez recruter aujourd'hui quelqu'un qui a 55 ans et qui potentiellement peut liquider sa retraite à 62, 63 ans, vous vous dites, je risque de recruter pour pas très longtemps, 7, 8 ans. Lorsqu'il doit partir à 65 ans, eh bien, c'est un collaborateur qui va rester au moins 10 ans dans l'entreprise et qui va pouvoir faire bénéficier de son expertise. Et Dieu sait qu'elles sont importantes chez les seniors. À 55 ans, nous sommes quand même aujourd'hui, en 2022, en pleine forme.
Alors, le 15 décembre prochain, la retraite sera ficelée, dévoilée. En principe, les régimes spéciaux, il y en a 42 actuellement, devraient être supprimés ou en tout cas grandement réduits. Vous y êtes favorable, François Asselin ?
Il serait complètement anormal que les salariés du secteur marchand, secteur privé, fassent un effort et que, de l'autre côté, les actifs de la fonction publique, les régimes spéciaux, eh bien, ne fassent pas d'effort. Ça serait complètement inégal. Donc, il faut que cette réforme soit équitable. Et bien évidemment, si on repousse de 3 ans l'âge légal de départ en retraite pour les actifs du secteur marchand, il est tout à fait normal qu'on fasse la même chose pour les actifs de la fonction publique.
Que faut-il faire, selon vous, avec la clause du grand-père, c'est-à-dire maintenir aux salariés déjà en poste les avantages de l'ancien régime et appliquer les nouvelles dispositions uniquement aux nouvelles embauches? Faut-il la supprimer et appliquer les nouvelles règles à tout le monde, François Asselin?
Vous avez deux effets de cliquet, en fait. C'est-à-dire que dans cette réforme telle qu'elle est prévue, en tout cas telle que on nous l'a présentée, pour les actifs du secteur public, vous aurez mécaniquement, quel que soit votre statut, un régime spécial ou pas, 2 à 3 ans de travail supplémentaire par rapport aujourd'hui sur le rythme qui sera celui secteur marchand, du secteur privé. Pour les nouveaux entrants, ils seront dans le régime général. Et en clair, pour ceux qui sont déjà aujourd'hui dans la fonction publique, eh bien, rien ne changera, sinon les 2 à 3 ans de travail supplémentaire par rapport à aujourd'hui. On aurait pu accélérer effectivement ce dispositif sur la partie publique. Donc, j'aurais tendance à dire que même si dans le secteur public, ça ne fait pas plaisir aux agents publics, en attendant, ils restent encore relativement préservés par rapport à la durée du temps de travail pendant toute leur carrière professionnelle par rapport au secteur marchand.
Et nous avons justement une professeure à la retraite. Elle a enseigné dans un lycée professionnel. C'est Marie qui nous appelle de Lyon. Bonsoir Marie.
Oui, bonsoir.
Alors pour vous, la mesure d'âge, c'est totalement inutile, si j'ai bien compris.
Je pense qu'elle sera contre-productive et c'est une poudrière parce que, je vais prendre un exemple, moi j'ai un beau-frère qui est parti à 50 ans, il était à la SNCF, donc ça fait plus de 20 ans qu'il est retraité, il est en pleine forme et la dernière année en plus on lui a offert une année où il a fait de la formation pour apprendre à conduire des bateaux, voilà, il s'est offert une conversion. Donc, pour vous dire un peu ce qu'il en est. Alors, moi, j'ai un statut un petit peu à part parce que j'ai commencé à travailler à 16 ans. Et en alternance, bien sûr, à 16 ans. Mais j'estime que on peut pas non plus demander à des gens qui ont commencé à travailler à 16 ou à 18 ans la même chose que ceux qui commencent à 30 ans, parce qu'il y en a qui traînent plus ou moins volontairement, mais en tout cas qui se précipitent pas pour le boulot. Et ils préfèrent prendre une année sabbatique à 20 ans. Et puis après, ils vont se plaindre parce qu'ils n'auront pas leur nombre d'années et ils vont pleurer. Donc, j'ai été élevée dans une bonne éthique de travail. Bon, mes parents ne me donnaient pas d'argent de poche, hein, donc il a fallu que je me débrouille. J'ai un parcours vraiment atypique parce que pour être professeur, il a fallu que je prenne des cours par correspondance, en cours du soir. J'ai travaillé aussi dans le commerce. À l'époque, on nous faisait faire 45 heures payées 40 parce qu'on avait des heures de carence, voilà, où on donc, était censé pas travailler. Donc
pour
on
vous,
était,
il ne faudrait pas nécessairement décaler l'âge légal de départ, mais compter seulement les annuités. C'est bien problématique posée par les carrières longues, en tout cas quand on commence très tôt à travailler. J'aimerais qu'on entende François Asselin.
On dirait 44 ans, on compte 44 ans, ça fait une moyenne, et au moins c'est plus juste.
Alors,
bien sûr. Alors,
François Asselin, président de la CPME, est avec nous. Allez-y, je vous en prie.
Oui, alors l'intervention de madame est très intéressante. D'abord, je suis très sensible au métier que vous avez pratiqué, parce que enseignante dans la formation professionnelle, ça me parle beaucoup, moi qui ai une entreprise de charpente-menuiserie. Donc, votre mission a été très importante pour la jeunesse de notre pays. Ça, c'est un premier point. L'autre point que vous citez, effectivement, quand on commence à travailler avant 18 ans, eh bien, il est tout à fait normal qu'on bénéficie du dispositif des carrières longues. Alors, le gouvernement doit garder ce dispositif intact, hein, c'est-à-dire que si on commence à travailler avant 18 ans, on bénéficiera d'une retraite anticipée si bien évidemment on a travaillé toute sa carrière professionnelle. Il y a même un dispositif qui s'appellerait super carrière longue, si on a commencé en pré-apprentissage, c'est-à-dire dès 16 ans, à travailler eh bien, dans une entreprise ou dans toute autre activité rémunérée. C'est tout à fait normal, effectivement, que lorsqu'on commence à travailler jeune, voire très jeune, eh bien, on puisse partir et liquider ses droits en retraite avant quelqu'un qui a commencé à rentrer dans la vie active un peu plus tard. Ce qu'il faut bien comprendre dans notre système de répartition, et finalement c'est assez beau, c'est que c'est un système de solidarité intergénérationnelle. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au niveau de nos cotisations. Parce que si on voulait garder, par exemple, aujourd'hui notre système en partant plus tôt en retraite, eh bien, on ferait supporter la charge à la génération montante, à nos enfants et à nos petits-enfants. Eh bien, j'aimerais faire partir de cette génération, j'ai 58 ans, qui a pris, entre guillemets, les dispositifs, et courageusement les dispositifs, pour que nous acceptions de partir collectivement un peu plus tard, pour que tout simplement on arrête de faire la poche de nos enfants.
Voilà, c'est un vieux débat hein, sur lequel nous allons revenir évidemment ces prochaines semaines. La réforme va être dévoilée le 15 décembre prochain et sera soumise à l'examen des parlementaires d'ici le début d'année prochaine. Merci beaucoup François Asselin, je rappelle que vous êtes président de la CPME. Et merci également à vous Marie d'avoir contribué à notre conversation sur Europe 1 ce soir.
19h, 20h, Raphaël Delvolvé.
Hier, nous recensions plus de 75 700 nouveaux cas de Covid, en hausse de 10% sur une semaine. Aujourd'hui, dans le journal Le Parisien, 12 associations de malades supplient le gouvernement de rétablir le port du masque obligatoire dans les lieux dits de grande promiscuité. C'est vrai qu'en cette période de grand froid, la 9e vague de coronavirus inquiète à la veille des fêtes où petits et très grands se retrouvent. Nous en parlons avec Benjamin Davido, infectiologue et directeur médical référent Covid à l'hôpital Raymond Poincaré de Garges. Bonsoir docteur.
Bonsoir à tous.
Alors il y a les associations de malades mais aussi des spécialistes comme vous qui réclament le retour du masque obligatoire, voire une meilleure communication sur le vaccin. Commençons, si vous le voulez bien, par le masque. Il faut y passer, y repasser pour être précis. Il faut le rendre à nouveau obligatoire, Benjamin Davido.
Bah écoutez, moi j'avoue que ça fait plusieurs semaines que, en tout cas, j'appelle à la plus grande pédagogie, mais une pédagogie avec l'ensemble des outils qui vont avec, c'est-à-dire l'affichage. On est passé encore une fois d'un extrême à un autre, d'un pays où il y avait une coercition, que ce soit sur l'hygiène en général, mais surtout très centré sur le Covid. Aujourd'hui, ce qu'il faut expliquer, c'est que le masque, c'est pas le masque contre le Covid, c'est le masque contre cette triple épidémie de bronchiolite, de grippe, de coronavirus également. Et clairement, ce qui manque aujourd'hui, notamment à la veille des achats pour les fêtes de Noël, c'est l'affiche du port du masque dans tous les grands magasins, dans ces lieux de grande promiscuité. Et je crois que de pointer du doigt exclusivement les transports en commun avec cette idée de dire qu'on rendrait le masque obligatoire dans les transports en commun et que ça serait terminé, serait un bien mauvais message sur la période de l'hiver, puisqu'encore une fois, si on remet le masque, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas ad vitam aeternam.
Alors, le président Emmanuel Macron était en déplacement dans la Vienne aujourd'hui, pas très loin de Poitiers. Il a enfilé un masque aujourd'hui.
J'ai mis le masque, non pas parce que je vous rassure, je serai malade ou autre, mais je suis les préconisations de mon ministre de la Santé et face à la remontée de l'épidémie et de la conjonction. Je pense que c'est bien de faire de la pédagogie parce qu'on n'a pas envie de revenir vers les obligations généralisées forcément. Et donc c'est aussi une manière de reprendre des habitudes basées sur le volontariat et l'esprit de responsabilité. Voilà.
Voilà, on est sur la base du volontariat hein, pour le moment quand on entend le président. Pas question de rendre le masque à nouveau obligatoire.
C'est intéressant là ce qu'il dit Emmanuel Macron, parce que la première chose qu'il dit c'est « je ne suis pas malade, rassurez-vous ». Aujourd'hui, un des problèmes, c'est que comme il n'y a plus d'isolement, notamment face au Covid, et que comme je l'expliquais, la problématique n'est pas exclusive au Covid, mais de cette triple épidémie, d'autres virus, factuellement il n'y a pas d'isolement. Et aujourd'hui, je pense que la meilleure façon de se protéger, c'est justement en remettant le masque, et notamment la première étape, c'est que les personnes qui sont malades remettent le masque. Je vois de plus en plus de gens qui disent « j'ai fait un test, j'ai pas le Covid, donc c'est pas grave », et qui toussent, qui ont le nez qui coule, et qui oublient ces gestes barrières. Et je pense que ça, c'est vraiment la première étape avant d'arriver, encore une fois, sur un excès inverse qui considérait à dire « c'est le masque généralisé qui serait une façon masquée d'une obligation du port du masque ». Et je pense que c'est important de graduer cette information parce que c'est une information médicale et que ces gestes du quotidien qu'on a appris, qu'on a dompté en quelque sorte, nous ont réellement protégés. Vous avez rappelé ces chiffres qui sont qu'une partie visible de l'iceberg de 100 000 cas à l'heure où il y a beaucoup de taux de dépistage de Covid et qu'on l'a dit, il y a aussi de la bronchiolite et de la grippe. Et je terminerai sur ce point qui est qu'il faut être particulièrement prudent, notamment chez les jeunes, parce qu'aujourd'hui, il y a des formes très sévères qu'on voit à l'hôpital chez des gens qui ont moins de 40 ans de grippe grave. Cette grippe H3N2 de type A est particulièrement virulente et le masque et les gestes barrières, le lavage des mains fonctionnent très bien dessus.
Voilà, ne pas oublier le Covid, ne pas oublier la grippe et la bronchiolite. Alors, beaucoup de Français espéraient cette année pouvoir passer des fêtes de Noël et du jour de l'an normalement pour la première fois depuis longtemps. 2022, c'est pas la bonne, hein, Benjamin Davido.
Bah écoutez, en tout cas, je pense que d'année en année, elle se passe de mieux en mieux parce que ces réflexes, on les a acquis. Je crois que l'année 2020, les fêtes étaient particulièrement angoissantes parce que rappelez-vous, il y avait cette histoire du totem de l'immunité avec ces dépistages. Aujourd'hui, dans le vivre avec, malheureusement, ça fait partie des inconvénients, si je pouvais dire. Mais encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on arrive à juguler ces épidémies et qu'elles arrivent à se saisonnaliser en quelque sorte et que c'est malheureusement la panacée, mais en hiver et que le reste du temps, on ne se pose pas toutes ces questions, eh bien, on aura fait un grand pas. Et encore une fois, il n'est jamais trop tard pour se faire vacciner. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être dans l'ère d'après, alors qu'on veut vivre le monde d'avant, eh bien, il faudra qu'on soit enclin à se vacciner pour ces maladies de l'automne et de l'hiver, et notamment grâce à l'aide de futurs vaccins, peut-être même pour la bronchiolite.
D'ailleurs, la Haute Autorité de Santé autorise aujourd'hui deux nouveaux vaccins anti-Covid en rappel, ceux de Sanofi et Novavax. Merci beaucoup, Benjamin Davido.
Bonne fête à tous.
Merci, bonne fête à vous aussi. Je rappelle que vous êtes infectiologue et directeur médical référent Covid à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Restez avec nous, l'actualité revient dans quelques instants sur Europe 1.
Europe Soir, 19h, 20h, Raphaël Delvolvé.